Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Plus fort que l'orage. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Les draps ont été changés, la chambre nettoyée. Est-ce qu'il reste quelque chose dans l'armoire ? Le génie ouvre la porte de l'armoire. Mon mère, il n'y a rien. Nous avons oublié quelque chose, ma fille. Le broc et la cuvette, nous les mettrons sur la commode. Eugénie va s'asseoir à côté de sa mère, qui est assise sur le rebord du lit. Qu'a fait Franck pour qu'on lui dise de vivre avec nous ? Paraît-il qu'il a fait beaucoup de bêtises à Paris, où il était parti faire ses études. Alors ton oncle a demandé à ton père de s'occuper de lui, de le surveiller. Lui ne peut pas à cause de ses affaires. Allez, maintenant que la chambre est prête, il nous faut descendre. Nous avons encore beaucoup à faire. Elles se lèvent toutes deux. La mère est plus petite que sa fille et plus large aussi. Elle a une tête ronde et porte ses cheveux blonds en chignon. Elle est habillée d'une robe beige toute simple avec sur le dessus un tablier blanc. Sa fille est grande, mince. Elle cache ses cheveux noirs sous un bonnet. Ses yeux bleus bougent sans arrêt et ses lèvres fines semblent toujours sourire. Elle est habillée comme sa mère. Avant de quitter la pièce, la mère et la fille la regardent une dernière fois pour voir si tout est en ordre. La pièce n'est pas très grande, mais elle baigne de soleil. Au sol, c'est un plancher blanchi par les lavages. Les meubles sont en sapin genre campagnard. Un lit a une place, une armoire, une commode. Au-dessus de la commode, une petite glace et au-dessus du lit, un crucifix en bois. Les deux femmes sortent de la pièce. Je crois qu'il sera bien. C'est simple, mais propre, dit la mère. Ils suivent un couloir qui mène aux chambres et à l'escalier. En plus de la chambre qu'elles ont préparée, il y a deux pièces. Celle des parents et celle d'Eugénie. Ils descendent les escaliers. Au bord se trouve un hall d'entrée avec trois portes, l'une en face de l'autre. La porte d'entrée de la ferme, la cuisine et la pièce commune. La mère et la fille entrent dans la pièce commune. Debout, devant la cheminée éteinte, se trouve un homme grand et fort, à cheveux blancs. Il porte des lunettes, son visage est ridé. Il est habillé d'une redingote et d'un pantalon marron. Il lit la gazette du coin. Ses mains qui tiennent le journal tremblent un peu. C'est le père François Ladry. Lorsqu'il a entendu la porte s'ouvrir, il a regardé qui entrait.
Voilà enfin vous deux. Vous en avez mis du temps.
La mère et la fille s'approchent de lui. La chambre était très poussiéreuse. Il plie son journal.
Ne vous donnez donc pas tant de peine. Ce garçon ne vaut pas la peine que l'on s'occupe de lui, après tout ce qu'il a fait. Toi, ma fille, ne te mets pas arrivé. Ce n'est pas une bonne fréquentation pour une fille comme il faut. Il arrive à la diligence de 10 heures et ne va pas tarder. Je vais aller le chercher.
Et il sort de la pièce. De la ferme. Il fait chaud, le ciel est bleu, nous sommes en juin. Il prend sa carriole qui a été préparée par ses métayers. Il dirige à 5 km de là, à Bourgoin. La diligence est arrivée en même temps que lui. Au milieu d'une dizaine de voyageurs se trouve un jeune homme grand, mince, blond, la peau très blanche. Il est habillé d'une redingote et d'un pantalon blanc. Il porte à la main une petite mallette en cuir marron. François s'approche.
Bonjour mon neveu.
Bonjour mon oncle.
La carriole est là-bas.
Il se dirige vers la carriole.
J'espère que vous avez fait bon voyage et que vous avez amené à étudier.
Dirige vers la ferme. La ferme de François Ladry est une grosse ferme avec de nombreuses métairies. Les Ladry sont enrichis grâce à la Révolution. C'est le père Ladry qui a acheté tout ce qu'il pouvait à cette époque. François a pris la succession du père. Il le fallait bien, puisque le frère aîné était parti en Amérique, soi-disant pour faire fortune. En guise de fortune, il est revenu en France avec une Américaine d'origine anglaise. Ils sont devenus marchands de draps à Lyon et ont eu ce feignant de fils qui les ruine en faisant la fête à Paris. Un fils de 20 ans qui en paraît 18 et se débauche comme un vieux cochon. Ils sont accueillis par la mère et la fille devant la maison. Eugénie est surprise de voir son cousin, elle ne l'avait jamais vu. Ce qui la trouble, c'est ce visage si fin et si pâle. À côté des hommes du village, il a l'air d'être en porcelaine. Ils entrent dans la maison et vont dans la pièce commune.
Ton père m'a parlé des ennuis qu'il avait vus avec vous. Pendant votre séjour ici, va falloir avoir une vie disciplinée. Je ne veux pas d'histoire. Nous sommes de pauvres paysans. Tout ce que nous vous offrons est de bon cœur. Mais ce n'est pas du luxe. Vous m'avez compris?
Oui, monsieur. Ensuite, la mère l'a menée à sa chambre. Avant de sortir de la pièce, elle lui dit « Nous avons fait de notre mieux. Surtout ne lisez pas trop tard le soir, car c'est ton oncle qui distribue la chandelle. » Est en face des parents et Eugénie à côté de lui. Papa était frugal. Des pois chiches, une petite part de poulet et des noix. C'est passé en silence. Jouer au domino. Mère brode. Franck est assis bien sagement. Il se demande ce qu'il va faire au milieu de ses ploucs. Au bout d'un moment, il se lève. Et dit, si vous le permettez, j'aimerais me coucher.
Bon, bonne nuit. Surtout ne veillez pas trop tard. Les bougies coûtent cher.
Nuit là, dans sa chambre, Eugénie a de la peine à trouver le sommeil. Son esprit est plein de l'image de son cousin. Demain matin, Franck se réveille et se demande ce qu'il va faire. La cuisine, la mère et la fille s'affairent à préparer le petit déjeuner. Comment le trouves-tu, ton cousin ? Il a l'air gentil, pas très bavard. Le père entre. Il regarde le broc de lait.
Je ne veux pas plus dépenser de lait que lorsque l'on est que nous. Il faudra augmenter avec de l'eau.
Mais père...
Taisez-vous, ma fille. Ce garçon ne veut pas la peine que l'on fasse des dépenses pour lui.
Après avoir pris son petit déjeuner, Franck se lève.
Où allez-vous ?
Me promener dans les bois ?
Non, vous passerez votre journée à étudier dans votre chambre.
Je ne peux tout de même pas rester enfermé tous ces jours dans ma chambre. J'ai besoin de sortir.
Chaque soir, vous irez avec ma femme et ma fille à la ferme voisine chercher le lait. C'est à 3 kilomètres. Et le dimanche, à l'église.
Franck trouve la chose tellement absurde qu'il monte à sa chambre sans rien dire. S'allonge sur son lit tout habillé. Bras derrière la nuque, il s'endort. Eugénie trouve honteuse la façon dont est traité son cousin et elle se rend compte, pour la première fois, qu'elle aussi a toujours été traitée de cette façon. À 18 ans, elle n'est jamais sortie de la maison. Enfant, le peu qu'elle sait, c'est sa mère qui le lui a appris. Pas d'école, ni d'amis d'enfance. Sa seule occupation, le travail de la maison et la religion. Ne sait rien s'acheter. En choisissant pour la mère, c'est la même chose. Jusqu'à présent, elle n'a pas trop souffert de ce manque de dépendance. À cause de l'infection qu'elle a pour son cousin, elle en souffre. La journée se passe monotone et triste. Franck est resté dans sa chambre. Il n'en est sorti que pour les repas. À force de s'ennuyer, il a ouvert ses livres d'études. Il apprend le droit. Son père veut qu'il devienne notaire. Lui s'en moque. Il n'a aucune idée pour son avenir. Vers 18h, l'on frappe à la porte. Oui, entrez. Passe à travers la porte le visage d'Eugénie. Mon cousin, si vous le désirez, vous pouvez venir avec nous chercher le lait. Oui, je veux bien, cousine. J'en ai assez de rester enfermé dans cette pièce. Et ils sortent de la pièce. En bas des escaliers, il trouve la mère avec un pot à lait. Dehors, la fraîcheur commence à tomber. Cela fait du bien à Franck. Pour aller à Métairie, ils suivent un charmant petit chemin boisé. Durant le trajet, personne ne se parle. la mère et la fille se regardent pour essayer d'entamer la conversation. Arrivés à la métairie où on leur sert le lait, la fermière leur demande s'ils désirent en boire avant de partir. « Oui, je veux bien, » dit Eugénie. On lui sert un verre de lait. Pendant qu'Eugénie boit, Franck l'observe et la trouve charmante. Et il sort, et Franck porte le pot à lait. Des pots de confiture dans le buffet. Tout à coup, la mère voit tout tourner. Elle met la main à son front. « Qu'est-ce qui vous arrive, mère ? J'ai un peu de vertige. Vous voulez vous asseoir ?» Elle n'a pas eu le temps de faire un pas qu'elle tombe. Fille, affolée, se penche vers elle. « Mère ! Mère ! » Elle lui donne des petites tapes au visage. La mère revient à elle. Vous allez mieux ? Oui, oui. Elle essaye de se relever. Elle ne peut pas. Attendez, je vais vous chercher de l'aide. Eugénie sort de la cuisine. Monte à l'étage. À la porte de Franck. Oui, qu'y a-t-il ? Père n'est pas là. Mère a eu un malaise. Si vous pouviez m'aider à la mettre au lit. Franck ouvre la porte. Je vous suis et descend les escaliers et vont à la cuisine. Elle est dans son lit. Il faut faire venir un médecin. Votre mère ne peut pas rester ainsi. Je demanderai au retour de père. Revient en fin de journée. Eugénie lui dit ce qu'il en est.
Pas la peine de faire venir un médecin pour si peu.
Je vous en supplie, père, si vous l'aviez vu sans connaissance. Le père hésite, mais comme la conversation a lieu devant Franck, il accepte qu'un médecin vienne le sculpter. Le médecin du village a ausculté la mère, il dit à la famille.
Elle a eu une attaque. Elle se remettra petit à petit. Il lui faut beaucoup de repos. Pour elle, c'est fini les gros travaux. Qu'elle reste allongée et ne bouge pas.
Que la mère ne peut aller chercher le lait, c'est Eugénie et Franck qui vont tout seuls. Sur le chemin qui mène à la ferme, ils marchent tous deux sans savoir quoi se dire. Pourtant, Eugénie est heureuse d'être auprès de Franck et Franck auprès d'elle. Et Franck qui rompt le silence. Ça vous gêne pas cette vie que vous menez? Vous êtes toujours enfermé? Vous n'avez aucune liberté. Eugénie sourit. J'ai toujours vécu ainsi. Je ne m'en rendais pas compte. Mais depuis que vous êtes avec nous, je m'aperçois que je n'ai aucune liberté. Que mon père nous étouffe. Partez. Pour aller où? Et mère, la laisser seule avec lui? Pauvre mère. De cette nuit, la promenade pour aller chercher le lait devient une joie où l'on se parle librement. Un soir, elle lui dit : Vous devez avoir une vie palpitante, Paris se doit être merveilleux. Oui, bien sûr, mais l'on trouve le bonheur n'importe où. Et il lui prend la main. Vous n'êtes jamais allé au bal? Non, mon père n'aurait jamais voulu. J'ai lu sur des affiches qu'il y a un bal à Bourgoin samedi soir. Si vous voulez, nous y allons. C'est impossible. Mon père ne voudrait jamais. Ne lui dirons pas. Nous partirons en cachette. C'est moi qui m'occuperai de tout. Vous me donnerez la réponse demain. J'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'à mon âge, mon père ne peut m'empêcher d'aller danser. Le samedi soir, après la veillée, le père est allé se coucher. Les jeunes sont allés dans leur chambre. Jenny, toute tremblante de peur, se prépare pour le bal. Une heure plus tard, l'on frappe à la porte. Elle l'ouvre. C'est Franck. Vous êtes prête? Oui, dit-elle en tremblant. Venez, n'ayez pas peur. Suivent le couloir en faisant le moins de bruit possible. Descendent les escaliers. J'ai pris la clé dans le polka à la confiture. J'ai vu votre mère la mettre là. Il ouvre la porte. Il fait nuit, ils vont à pied sur la route qui mène à Bourgoin. bal se passe bien et Eugénie a vite appris à danser.
Va me chercher de la pompe au grason.
De retour, elle dit qu'elle est très heureuse et qu'elle ne s'est jamais autant amusée. Alors, embrassez-moi. Elle hésite, puis, d'un geste bref, elle lui donne un baiser sur la joue. Non, pas comme ça. Et d'un geste brusque, il la prend dans ses bras et l'embrasse sur les lèvres. Elle reste toute confuse. Il lui prend la main et ils continuent leur chemin. Après ce baiser, Eugénie se sent toute troublée et heureuse. De cette nuit, chaque fois qu'ils vont chercher le lait, ils l'embrassent. Le soir, dans sa chambre, elle se dit « Puisqu'il m'embrasse et qu'il m'aime, moi aussi je l'aime. » Autrement, je ne sentirai pas ce que je ressens dans mon cœur. Pourquoi ne me dit-il pas qu'il m'aime ? Que je vous aime, venez. Elle l'emmène derrière un talus et la fait asseoir. Il s'assoit à côté d'elle, l'herbe est mouillée. Il lui prend les mains et lui donne un baiser sur la bouche. Vous voyez bien que je vous aime. Elle lui sourit. Il se penche vers elle. Il lui donne un baiser en l'allongeant sur l'herbe. Tout en l'embrassant et se plaquant contre son corps, il passe une de ses mains sous sa robe et monte. Elle veut se défendre, mais ne peut. Une fois que le baiser est fini, enlevez votre main. Pourquoi ? Ça ne vous plaît pas ? Avec son autre main, il lui caresse ses seins, qui s'engrossir et se raffermir sous le corsage. Elle s'abandonne. Cette douceur qu'elle ressent, elle tourne la tête, elle est toute rouge. Dans un moment d'abandon, elle desserre légèrement les jambes, lui en profite pour monter plus haut. Il lâche la main qui tenait les seins, soulève la robe, fait descendre le slip. Elle pousse de petits gémissements de plaisir, et tout à la fois, elle a honte. Une fois que le slip est descendu, il se déculotte, et... Il est plaqué contre elle et ne bouge plus. Il a le pantalon baissé, elle a la robe relevée. Une traînée de sang suit le long de ses cuisses. Elle pleure. Il se soulève. « Pourquoi pleures-tu ? Parce que j'ai honte. »« De quoi ? Nous nous aimons, c'est cela faire l'amour. »«
Oui, mais lorsque l'on est marié. »«
Qu'est-ce qui te dit que nous ne nous marierons pas ?
C'est vrai ?»
Oui, et il l'embrasse. Les jours passent, la mère est toujours malade et le père s'occupe de ses métairies. Eugénie est très heureuse et attend que Franck la demande en mariage. Ils sont désormais amants tous deux. Franck, en plus d'aller chercher le lait avec Eugénie, va chercher à Bourgoin, une fois par semaine et seul, les médicaments pour la mère. Chercher le lait, Franck dit à Eugénie « Écoute chérie, j'ai bien réfléchi. Votre père ne voudra jamais consentir à ce que nous nous marions. Nous allons faire une chose, c'est nous marier en cachette et revenir après. »
« Nous marier en cachette ? Comment ?»«
En partant, nous marier ailleurs, en allant à Lyon par exemple, pour une semaine ou deux. »
« Mais partir comme ça ? Avec quoi ? Tu n'as pas d'argent ?»
Non, je n'ai rien.
Si, j'ai mes bijoux. Ils sont à moi, ce sont ceux de ma grand-mère.
Elle me les avait donnés avant sa mort. On pourrait peut-être les mettre en gage.
Les bijoux de ta grand-mère, ce serait un trop grand sacrifice.
Mais non, puisque c'est pour vivre avec toi. Il s'arrête de marcher, lui fait face. L'on y voit presque comme en plein jour. C'est la pleine lune.
Tu serais capable.
Bien sûr, je t'aime. Il la prend dans ses bras et l'embrasse.
Dans la chambre de son père et prit dans l'armoire le coffret à bijoux. Elle l'a donné à Franck dans sa chambre.
Thank you.
C'est lui qui le portera au porteur sur gage.
Bon, je vais partir demain après-midi, dès que ton père s'en ira. Et je viendrai te chercher le soir même à 22h, au carrefour où se trouve la croix. T'as compris ?
Il l'embrasse.
Après, tu seras à moi. Nous serons libres.
Dans l'après-midi en emportant le coffre à bijoux.
En fin de journée, avant que son père ne revienne et en cachette de sa mère, elle prépare son petit sac de voyage.
Elle a un peu honte de partir comme cela, surtout en laissant sa mère, mais ce ne sera que pour une semaine ou deux. Après, elle reviendra. Elle cache sa valise sous son lit.
Chacun va se coucher.
À 21h, elle sort la valise de dessous le lit.
Sort de la chambre.
Suit le couloir, descend les escaliers, sort.
Pleut à verse avec du vent, l'on y voit à peine, nous sommes en octobre.
Suit le chemin qui est devenu une rigole boueuse.
Ses chaussures et le bord de sa robe sont pleins de boue. Elle avance péniblement et a des difficultés à respirer.
Ses vêtements sont trempés et ils deviennent froids.
Mais elle ne ressent pas tout cela. Son corps bat, bat.
Elle a hâte d'être près de lui.
Il n'y a encore personne. C'est peut-être trop tôt. Elle n'a pas de montre. Elle s'arrête devant la croix. Rien pour s'abriter. Le vent, la pluie font rage. La pluie traverse ses vêtements.
Tout ça, c'est la faute de père. S'il n'était pas aussi tyrannique, je ne serais pas obligé de me sauver pour me marier.
Thank you.
sais plus. Je ne sais pas. Il va peut-être ne pas tarder.
Vent, la pluie fait toujours rage. Elle attend encore. N'en pouvant plus, elle s'est assise au pied de la croix, la tête contre le bois de la croix. Le froid, l'humidité, a raidi son corps et ses pensées. Elle ne sait plus rien. S'est endormie. Au petit matin, plus de vent ni de pluie. Se réveille toute courbaturée, les vêtements trempés et pleine de boue. Quelque chose qu'elle ne veut pas savoir lui serre la gorge, mais il faut que ça sorte. Elle se met à hurler. Il n'est pas venu. Et pleure. Le soleil chauffe ses membres. Elle se soulève, se lève, prend sa valise et s'en retourne chez elle. Sans faire trop de bruit et monter à l'étage. Entre dans sa chambre, se déshabille. Ses vêtements dans l'armoire avec le sac. Se lave. Et se couche. 6h du matin, personne ne s'est aperçu qu'elle est sortie. À 8h, son père frappe à sa porte.
Oui,
il est 8h.
Je reste au lit aujourd'hui. Je suis indisposée.
Tu sais où est Franck ?
Il a reçu une lettre de sa mère qui lui disait d'aller la voir. Elle n'est pas bien.
À Lyon. Commercière dans un hôtel minable. Odette se fait les ongles sur le lit des fées en chemise de nuit. C'est une grande fille brune, les cheveux longs qui ondulent. Elle est belle, mais les traits de son visage n'ont rien vulgaire. La porte s'ouvre. Et Franck qui entre. Il ferme la porte.
Alors, tu en as eu pour combien de ces bijoux ?
Pas mal. Dit-il en s'allongeant sur le lit. Odette et sa maîtresse, il la faisait venir à Bourgoin chaque fois qu'il y allait. Ils se rencontraient dans un petit hôtel.
Eugénie est dans son lit. La chambre a les volets clos et pleure son premier amour. C'est la fin de sa jeunesse. Lorsqu'elle se lèvera, elle deviendra métamorphosée en femme. Mais elle ne le sait pas encore. Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Plus fort que l'orage, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.